Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on annonce une vague de froid et en plus on va avoir des coupures d'électricité cet hiver. Mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. D'abord, c'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle. J'ai même une quatrième bonne nouvelle. Et vous allez voir, j'ai même une cinquième bonne nouvelle. Ça c'est pour le teasing, la deuxième partie de l'émission. La quatrième, c'est, je l'ai déjà dit la semaine dernière pour ceux qui ont écouté l'émission, mais je le redis parce que je suis tellement content, ça me fait plaisir pour nous, pour nos invités, pour vous. On cartonne en podcast, en replay, on a battu un record sur le mois d'octobre. Voilà, je le dis parce que personne ne le dit, donc il faut bien qu'on le dise. Rien qu'en podcast, vous étiez 244 000 à nous suivre en podcast, hein, hors live, le mois dernier. Donc merci, continuez à parler d'émission, continuez à la regarder. Pourquoi ? Parce que c'est une émission exceptionnelle, puisqu'on va vous donner toutes les clés, sans exception, pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent sur l'économie, la finance et les placements. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. Au sommet aujourd'hui, un mot, union, est-ce que c'est le bon mot justement quand on parle de l'Europe ? Une question, le consensus économique, a-t-il raison ? Un chiffre ? En fait, pas de chiffre, on sait toujours pas si ça sera entre 60 et 70 dollars. C'est ce fameux plafond du prix d'achat du pétrole russe par les États-Unis et leurs alliés. En deuxième partie d'émission, on va se poser des questions simples. Bah, tout simplement, où vont les marchés ? La question d'argent, c'est quel secteur d'investissement privilégié ? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle. Bah oui. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle est très claire. Très, très claire. Elle ne pratique pas la langue de bois. Celle qui est devenue incontournable dans cette émission, Valentine Hénouz, vous êtes responsable adjointe de la recherche et stratégie des marchés développés chez Amundi. Je rigole parce que votre titre me fait marrer à chaque fois. Mais...
Il a changé.
Ah bon, ça y est, alors ouais.
Maintenant, je suis responsable tôt. De la stratégie tôt.
Ah ben c'est génial, ça va être beaucoup plus court.
Beaucoup plus court.
Il va falloir nous le dire, c'est depuis que je gueule ici dans l'émission que vous pensez qu'ils ont réagi ou pas ?
Je suis pas sûr même.
Bon allez, on va dire que c'est pour ça,
On va dire que c'est pour ça.
Bon, c'est une promotion au moins ou pas ? Non, vous voulez pas parler ?
Non, mais bon.
Allez, il y a des gérants qui savent naviguer dans la tempête, lui. Eh bien, je sais pas s'il est au courant, mais il caracole depuis plusieurs semaines dans le top 3 de cette année pourtant difficile. Vous saviez, Pierre Chang ?
Oui, je savais.
Vous êtes gérant chez Tocqueville Finance et on va voir si cette semaine, vous êtes, vous avez même failli être positif. On a failli sortir le champagne la semaine dernière parce que je vous rappelle quand même que ça fait des mois qu'on n'a aucune performance positive parmi tous les gérants et je leur jette absolument pas la pierre, évidemment. D'abord, je leur jette pas la pierre parce qu'ils ont le courage de donner leur opinion et de proposer des titres à acheter, donc bravo. Et d'autre part, parce que le contexte est tellement compliqué que c'était difficile. On va voir si vous serez à la fin de l'émission dans le top 3. Elle maîtrise parfaitement, elle m'a tout appris, hein, les stratégies d'allocation et la gestion de patrimoine. Et en plus, elle prépare ses interventions avec application. Elle a des fiches sur tous les sujets. Pascal Séville, vous êtes toujours team manager chez Oddo BHF Private Bank. Merci, c'est un plaisir de vous avoir.
Vraiment.
Sans lui, nous serions perdus avec les événements géopolitiques qui se succèdent à une vitesse stupéfiante. Il nous donne en permanence une grille de lecture brillante et limpide. L'irremplaçable Benaouda Abdelhaïm. Benaouda, merci d'être venu. Bonjour.
Beaucoup d'autres accueils.
Et toujours un plaisir de vous voir, car vous nous éclairez. Allez, le mot de la semaine, je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, c'est union. Je n'arrive toujours pas à savoir, Benaouda, si l'Europe est unie ou désunie dans cette crise face aux États-Unis. Maintenant, l'Inflation Act, on essaye de montrer les dents, mais est-ce que c'est une mise en scène ? Même chose vis-à-vis de la Chine. Où est-ce qu'on en est ? Vaste sujet. Hein.
Très vaste sujet, mais plus les semaines passent, plus on s'enfonce dans cette crise géopolitique majeure en Europe, à l'est de l'Europe, et ça donne l'impression d'une Union européenne qui subit les événements et qui court tout le temps après la décision. Et le fait est que l'écart par rapport aux États-Unis dans la maîtrise des événements est de plus en plus flagrant. C'est le service extérieur de l'exécutif européen qui ne cesse de dire que les États-Unis, toujours en off bien entendu, jamais en on, c'est-à-dire jamais publiquement, ouais. que les États-Unis sont ceux qui, de plus en plus, tiennent la barre dans ce conflit et en tirent bénéfice, soit au travers des tarifs de l'énergie, soit au travers de la des ventes des armements, soit dans le pilotage de la construction européenne, au sens où les États-Unis sont en train d'imposer de pas à pas l'idée que le centre de gravité de l'Union européenne se déplace vers l'Est et vers le Nord. Cette semaine, il y a un chef militaire américain positionné en Europe qui a déclaré que la Pologne était le partenaire le plus important actuel du Pentagone au sein de l'Europe, faisant fi en cela du malaise qu'il y a entre Varsovie et les institutions européennes qui estiment que le régime en place, enfin le gouvernement en place, la majorité nationale conservatrice en place en Pologne foule au pied l'état de droit tel qu'il est conçu au travers de l'article 2 et de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Premier point. Et cette idée que le centre de gravité n'est plus, somme toute, celui des principales économies de la zone euro, c'est-à-dire France, Allemagne,
En tout cas, il est déjà plus du tout avec l'Europe du Sud.
Ah non, mais ça...
C'est l'Est et l'Europe centrale, ça y est.
Exactement. Et c'est frappant de voir, par exemple, le ministre letton de la Défense et juger que l'Allemagne doit prendre ses responsabilités, croiser le fer avec la Russie dès lors que les États-Unis ont décrété que ce centre de gravité s'est déplacé vers l'Est. L'Allemagne ne rentre pas dans ce jeu pour l'instant, mais...
Mais on la sent se détacher de plus en plus de la France. On la sent évidemment se détacher de l'Italie, de l'Europe du Sud, et on la sent tourner ses regards vers la zone qui est sa zone naturelle d'influence. Qui est l'Europe de l'Est et centrale.
Oui, mais il y a un tel écart de conception de la notion de la construction européenne entre Berlin et Varsovie, d'ouverture à l'international, de conception de l'identité nationale, de conception de l'état de droit l'idée simplement que on délaisse Paris pour Varsovie n'a absolument aucun sens vu de la classe politique allemande. Un dernier point, ce qui est frappant, c'est que même lorsque l'Allemagne essaye de prendre l'initiative, par exemple, en décidant de donner des systèmes de défense anti-aérienne patriotes à la Pologne pour la couverture de sa frontière avec l'Ukraine. Vous avez ensuite la Pologne qui demande à l'Allemagne que ces systèmes de défense anti-aérienne aillent à l'Ukraine. Donc, mettent dans l'embarras la classe politique allemande. Donc, l'impression de tout le temps subir et de jamais être à l'initiative, de jamais maîtriser les événements. Et ça, c'est de semaine en semaine.
Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a beaucoup d'éléments, mais il y a aussi ce déséquilibre de plus en plus fort entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'on le ressent de façon économique? Est-ce que ça vous inquiète, vous, les économistes?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des États-Unis qui sont indépendants d'un point de vue de l'énergie, alors qu'en zone euro, aujourd'hui, on est quand même impacté par un prix de l'énergie qui est élevé et qui peut rester durablement élevé. Et on peine aujourd'hui en Europe à trouver une réponse commune à ces prix de l'énergie extrêmement élevés.
On va en parler tout à l'heure, évidemment.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui? On met en place des politiques budgétaires, surtout au niveau national. Alors, pour moi, ces politiques budgétaires ne sont pas contestables si c'est pour réduire notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie, si c'est pour financer notre transition vers une économie plus verte. Mais ces politiques budgétaires qui sont considérables sont beaucoup plus discutables si c'est pour soutenir la demande dans un contexte où on peut avoir une crise sur l'énergie qui perdure et si ces soutiens ne sont pas très ciblés. Pour moi, il y a deux inconvénients à ces politiques. Le premier, c'est qu'on va maintenir à moyen terme les pressions inflationnistes. Et le deuxième, c'est comment les financer, surtout dans un environnement où la BCE aujourd'hui, à cause des niveaux d'inflation élevés, est en train de réduire son soutien. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur les marchés de la dette des États en zone euro, ce que vont devoir absorber les investisseurs en termes d'émissions nettes des achats de la BCE, c'est simplement du simple au double entre cette année et l'année prochaine.
D'accord. Et la BCE va quand même dans sa politique anti-fragmentation. C'est-à-dire, je rappelle ce que c'est de dire on veut pas trop d'écart de taux d'intérêt entre les pays périphériques et l'Allemagne. Vous pensez qu'elle va pas continuer à acheter de la dette des États?
Pour l'instant, depuis, en termes d'achats nets, les achats nets sont terminés depuis cet été. Et l'objectif, le TPI, c'est plutôt une réallocation des montants qui arrivent à maturité, qu'elle a déjà dans son portefeuille. Et le problème là dont je parle, c'est pas tellement un problème de fragmentation financière, mais plus un problème de pression sur les taux sur la zone euro, de montants qu'on va devoir financer pour financer ce soutien à la demande ou ces investissements, de montants de dettes qui vont arriver sur le
marché.
Alors
je sais qu'on peut pas raisonner sur du très court terme, mais ce qui est très étonnant, c'est que l'euro a rebondi et le dollar est un peu baissé. Bon, alors certes, il avait énormément progressé, mais ça peut paraître étonnant par rapport à ce que vient de dire Ben Aouda et ce que vous dites vous-même. Hein, on sent chez vous deux, pour des raisons un peu différentes, une inquiétude très forte de déclassement. Ah, le mot est un peu fort, mais un peu de déclassement, non
Tout à fait. Il suffit, vous me direz que ce n'est pas une référence, mais il suffit de regarder les médias d'État chinois, comment ils abordent et comment ils sont en train de jouer cette divergence euro-américaine avec l'idée qu'il y a un vassal et un maître.
Exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que gérant? Est-ce que vous dites du coup par rapport à vos clients, en ce moment, on mise tout sur les États-Unis et on arrête la zone euro?
Pas du tout, en fait. Il y a une vraie dichotomie quand même dans nos décisions. Quand on fait des décisions d'investissement, qu'on regarde les marchés financiers, nous, on va regarder les niveaux de valorisation, qu'est-ce qui est sous-coté, qu'est-ce qui mérite d'être regardé de nouveau. Donc, je ne dis pas qu'on fait fi des raisonnements économiques, c'est juste pas possible. Mais néanmoins, c'est...
Et géopolitique et géostratégique.
On ne peut pas, en tant que gérant... On ne peut pas de toute façon prévoir les événements géopolitiques ou les chocs exogènes. Donc on est obligé de regarder plein d'autres caractéristiques. Néanmoins, moi je vous trouve quand même un petit peu dur avec l'Union européenne. Parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est conjoncturel parce qu'on a un faisceau d'événements aujourd'hui qui met les États-Unis clairement dans une position de force, qui les met de nouveau comme le créancier du monde. Mais malgré tout...
Mais au-delà du créancier du monde, ça va beaucoup plus loin parce que si c'est les budgets militaires sur les 10 ans qui viennent, c'est le réarmement de l'Allemagne, c'est des pays neutres comme la Finlande et la Suède qui redeviennent, qui rentrent dans l'OTAN.
L'OTAN a quand même un tout petit peu meilleur presse qu'avant. Il y a quand même des avancées.
Oui,
L'Europe s'est quand même construite sur des événements pas évidents. La chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS. Aujourd'hui, on observe en fait un peu de notre fenêtre le côté un peu conjoncturel. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir dans 4, 5, 10 ans où on en est sur la construction de l'Union européenne. Et je trouve qu'il y a quand même des avancées. Il y en a eu après la pandémie avec la dette commune. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir quand même avec des décisions budgétaires sur l'armement? Tout ça, ça va être intéressant à observer.
Ou sur la transition climatique? On peut avoir une politique européenne de transition énergétique.
De ça. Et à chaque fois, elles sont un peu pénalisées parce qu'il y a des événements quotidiens qui font que. Mais je trouve que la tour d'observation, il faudrait qu'on l'élargisse sur l'OTAN, en tout cas.
Pierre, on sent que vous avez envie d'intervenir.
Nous, on a une vue constructive sur l'Europe. Alors, en fait, l'atermoiement, le flottement qu'on sent aujourd'hui, il est tout à fait compréhensible. Nous, de notre point de vue, l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Voilà. Le couple franco-allemand était dominé par les...
Qui n'existe que dans l'esprit des Français.
Le couple franco-allemand était dominé par les Allemands sur les 20 dernières années pour plein de raisons. Et aujourd'hui, il y a un passage de témoin. Pourquoi ? Parce que les Allemands, ils n'arrivent pas à trancher des sujets clés du moment. L'énergie, les relations internationales, la protection des États-Unis dans l'OTAN, leurs relations avec la Chine. Donc ils sont ils doivent trancher des questions de modèle et qui vont prendre du temps à trancher. En plus, les Allemands prennent du temps parce qu'ils discutent. C'est un modèle de consensuel, de compromis permanent. Et donc, toutes ces questions vont mettre beaucoup de temps. Si on dit 10 ans, on est peut-être dans cet ordre de grandeur. Donc ça va mettre beaucoup de temps. Cet atermoiement affaiblit la puissance politique de l'Allemagne au sein de l'Union. Qui reprend le flambeau? C'est la France, obligatoirement.
Et
c'est
pour ça que je suis d'accord. Pas d'accord avec vous.
Je suis d'accord avec Ben Aouad quand on dit l'Allemagne va se tourner vers Varsovie, mais si on laisse tomber la France, il n'y a plus d'Europe. Donc les principaux bénéficiaires de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne n'a aucun intérêt à laisser tomber. Et maintenant, si on se projette dans un horizon de temps de 5 à 10 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Europe est un tournant énergétique. L'Europe a toujours été dépendante du monde pour l'énergie. Avec la révolution verte, les choses vont considérablement changer. Et je peux vous dire que le solaire, parce qu'on a un fonds, je travaille également sur un fonds environnement, le solaire, c'est le coût marginal de l'énergie solaire, c'est zéro. Donc les parcs qui auront 20 ans dans 20 ans, nous donnerons du mégawattheure autour de 40 ou 50 euros du mégawattheure. Donc oui, ok, on passe un moment difficile qu'on a déjà vécu dans les 70. On sait comment ça se passe. Mais moi, je demande juste aux gens, dans leur vision de l'Europe et de la France en particulier, de se projeter un tout petit peu derrière l'obstacle qui se présente aujourd'hui.
C'est intéressant, hein. Vous avez bien fait de relancer. Valentine, juste sur l'énergie, l'idée que l'Europe peut devenir indépendante énergétiquement avec les
Il faut un peu de temps, hein. c'est pas un horizon de 3 à 5 ans, hein.
on
y travaille.
Pourquoi pas? Après, on peut pas, je veux dire, il y a quand même, il faut aussi comprendre qu'on peut faire des nouvelles avancées en termes de technologie, mais ça, on est plus en train de parler à un horizon d'il y a 10 ans, dans 10 ans. Donc, à court terme.
Mais est-ce que ça vous rassure ce qu'il dit ou pas du tout sur notre dépendance?
Je dirais, il faut pas tomber dans un. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais ça, ce n'est pas un scénario pour nous pour les 2-3 prochaines années. Les 2-3 prochaines années, le scénario qui se dessine pour nous, c'est est-ce qu'on va être de nouveau alimenté ou pas par le gaz russe via les pipelines? C'est cette question qui, pour moi, est importante pour notre scénario pour l'Europe pour l'année prochaine.
Ben Aouda, ce scénario que je ne partage pas, hein, de l'affaiblissement de l'Allemagne et d'atermoiement que je ne vois pas, où je pense que ça va être réglé, non pas en 10 ans, mais en quelques mois, et que ça profitera à la France?
Pierre Chang a mis le doigt sur un point très important. L'Allemagne est une véritable démocratie parlementaire. C'est-à-dire qu'on débat. Ça peut durer des mois et des mois, et voire des années. Donc, premier point. Deuxième point, on assiste, là, il faut se fonder sur des faits, à une forme de rappel à l'ordre ces derniers jours, assez général et à travers l'ensemble de la classe politique allemande, de l'importance de ce tandem, cet axe, ce couple, peu importe, hein, ce partenariat franco-allemand.
Même en Allemagne.
D'accord. Et je vais donner qu'une seule illustration. Vas-y. L'interview de Joschka Fischer, l'emblématique chef de la diplomatie allemande de 1998 à 2005, vraiment quelqu'un qui a pensé les relations internationales, qui estime que Olaf Scholz doit maintenant réinstaurer l'idée de l'importance écrasante de la relation franco-allemande au sein de l'Union européenne. Vous voyez ça dans la presse bavaroise, dans la presse berlinoise, l'idée que on n'a pas prévenu les Français concernant les 200 milliards d'euros de relance. On n'a pas prévenu les Français pour les 100 milliards pour le budget de la défense. Maintenant, il faut rétablir l'axe fondamental de la construction européenne, qui est l'axe franco-allemand. Après, chacun aura ses intérêts, etc. Mais ces derniers jours, c'est vraiment une tendance très importante.
Passionnant. Allez, on passe à la question de la semaine. Faut-il croire au consensus sur l'économie et l'inflation en 2023 2024. J'ai un peu regardé tout ça. Évidemment, il y a eu les chiffres de l'OCDE, vous les avez vus. Donc, en gros, hein, on va faire simple, puis je vais laisser les économistes parler, mais c'est année blanche, zéro plus ou moins dans la plupart des pays développés pour l'année 2023, avec une croissance mondiale autour de 2,2%, tirée par les pays d'Asie, principalement, et quelques pays émergents producteurs d'énergie. Et 2024, on repart doucement, avec une croissance mondiale à 2,7%. Tout ça dans un climat d'inflation où il y aurait donc une baisse assez significative d'ici à fin 2023 et une baisse qui continuerait en 2024. Le point, c'est pas tellement de se dire bon, ça semble être faire consensus, et d'ailleurs c'est ce que je partageais quand j'ai lu le truc de l'OCDE. Je me suis dit tiens, ça me paraît assez logique. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce scénario? C'est plutôt ça qui m'intéresse, ouais. Valentine.
Alors moi, il y a
qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à ce scénario central, on va dire,
hein? Nous, on est à peu près sur ce scénario-là, ce qui est un scénario assez consensuel. Je dirais, il y a trois points, moi, que je surveillerai cette année. Le premier point, c'est la vitesse à laquelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors prix de l'énergie, va reculer, et la crédibilité des banques centrales. Le deuxième point que je surveillerai, ce serait une vraie récession aux États-Unis. Et le dernier point, c'est cette fameuse crise de l'énergie en zone euro. Est-ce que c'est pas plutôt l'arrivée d'un nouveau régime sur les prix de l'énergie en zone euro? Alors, sur le premier point, sur le risque de voir la rapidité avec laquelle on va voir l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix de l'énergie, reculer. Je suis beaucoup plus confiante sur l'économie américaine que sur l'économie européenne. Parce qu'aux États-Unis, on a une inflation qui est tirée par la demande. En Europe, on est sur une inflation qui est tirée par les coûts. Donc, le ralentissement de l'activité économique aura un impact plus important sur l'inflation core aux États-Unis que sur la zone euro.
Core, on rappelle que c'est hors alimentaire,
hors prix de l'énergie. Rapidement. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'indicateurs aux États-Unis qui confirment ce ralentissement de la demande et ce ralentissement de l'inflation. Si on regarde le coût du fret qui est en train de baisser, si on regarde les prix des loyers qui baissent, si on regarde les stocks sur les prix des biens aujourd'hui qui sont sur des niveaux extrêmement élevés, qui laissent présager des promotions à venir. Et si on regarde aussi toutes les demandes pour les biens d'équipement, pour les maisons, ou qui sont en chute libre, en ligne avec le ralentissement sur le marché de l'immobilier. Aux États-Unis aujourd'hui, sur l'inflation.
Donc on peut dire qu'on a pivoté sur l'inflation, pas sur les taux.
Ce qui continue d'inquiéter sur l'inflation, c'est l'inflation core et les services, Mais là, les hausses de taux de la Fed auront un impact sur cette inflation. Par contre, les hausses de taux de la BCE auront peu d'impact sur les prix de l'énergie. Et le problème, et là où pour moi c'est un signe noir pour l'année prochaine, c'est la BCE, la capacité de la BCE à adopter un ton plus accommodant sera limitée dans, si l'inflation ne recule pas assez.
Très rapidement, Ben Aouda, est-ce qu'il y a des signes noirs sur l'année qui pourraient faire que notre scénario central et économique dérape? Bon, évidemment, la situation en Ukraine, mais...
D'un point de vue géopolitique, c'est quand même frappant la façon dont la question nord-coréenne et la péninsule coréenne est traitée de façon presque anodine.
Vous pensez ça peut être un signe noir?
C'est-à-dire que c'est toujours lorsqu'il s'agit de nucléaire, parce qu'on se concentre sur l'éventualité d'une frappe tactique nucléaire russe sur l'Ukraine, mais il y a une question nucléaire fondamentale qui est dans la péninsule coréenne.
D'accord.
Et l'idée, est-ce que les Américains vont pousser au déploiement d'armes tactiques nucléaires dans le sud, ce qui amènerait Pyongyang à le percevoir comme une éventuelle agression ou une tentative d'agression. Et de ce point de vue-là, on sent qu'on a l'impression de... On met un couvercle sur la marmite et puis on verra ensuite.
Si vous aviez à donner un signe noir, vous n'êtes pas en train de prédire que ça va se passer, mais on est en train de parler de ce qui n'est pas attendu mais pourrait se passer.
C'est bien la question nord-coréenne et sud-coréenne d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a un événement dont vous vous dites, tiens, ce consensus, j'imagine que c'est aussi le vôtre, un peu chez
vous? Oui, on est même un petit peu en dessous. Nous, on a 1,8 de croissance sur 2023 en prévision. Non, mais je crois qu'il ne faut pas omettre quand même de bien observer la Chine. Qui peut, alors c'est pas vraiment un signe noir parce que on s'attend quand même à ce que ce soit compliqué, mais à chaque fois que vous voyez un peu une détente sur les mesures restrictives au niveau sanitaire, on voit bien que ça se réemballe de nouveau. Vous avez vu les émeutes dans l'usine qui fabrique les iPhones, les gens n'en peuvent plus d'être confinés comme ça, et je pense malgré tout, c'est un moteur dans l'économie mondiale qui aujourd'hui est en panne et qui risque de l'être peut-être encore plus que ce qu'on a tous envisagé. Voyons ce qui va se passer sur le marché immobilier et autres, mais ça pour moi, ça peut être un facteur qui impacte fortement la croissance mondiale.
Pierre,
ouais, franchement, bon, là, en positif, je dirais la chute de Vladimir Poutine, même si ça reste envisageable.
ça serait un signe blanc.
Ça serait un bing-bang fantastique. La Chine, le secteur immobilier en Chine, franchement, je veux dire, c'est très inquiétant.
Très inquiétant. Je rappelle quand même qu'on a annoncé vendredi un package record, 162 milliards. Le gouvernement qui a fait le contraire de ce qu'il a dit il y a quelques temps, puisqu'il tapait sur les promoteurs, et là, il vient d'injecter 162 milliards de subventions de crédit pour les promoteurs. Je vous interromps.
Boire un âne qui n'a pas soif, on verra bien, mais j'espère que ça fonctionnera. Et ensuite, je veux dire, c'est vrai que cette remontée des taux en 2022, c'est incroyable. Je veux dire, et donc, je pense qu'il y a plein d'institutions financières dans l'économie qui sont quand même sous pression de cette hausse de taux très rapide. Ouais. Et pour avoir des trucs qui sortent peut-être en 2023, des trucs pas très sains, mais on verra bien.
Par rapport à la hausse de taux, très rapidement, je voudrais quand même parler une seconde avec Ben Aouda du chiffre de la semaine. C'est cette négociation qui n'en finit pas au sein de l'Europe. On a parlé beaucoup de l'Union européenne sur le plafond du prix du pétrole payé à la Russie. Bon, comme dit la chanson qu'on est en train d'écouter, c'est mal barré. Ces histoires de cap sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, est-ce qu'on peut imposer comme ça
sur le prix du pétrole, il n'y a qu'à voir la façon dont le Kremlin un détachement par rapport à la question et même tourne ça en dérision, parce que si on est autour de 65 dollars, c'est le prix 65-70 dollars, on serait le baril. On serait somme toute au prix auquel la Russie écoule en discount son brut. Donc,
c'est ça, parce qu'il faut rappeler que la Russie en fait continue à vendre, notamment exactement, à la Chine, à l'Inde et autres, mais applique. La Chine lui dit, moi je veux bien acheter, mais pas au prix du marché.
Exactement. Donc, et de ce point de vue-là, il y a une forme d'inconséquence à continuer à parler somme toute dans le vide, vu de Moscou.
Est-ce que justement on ne doit pas faire semblant?
Oui, il y a tout à fait, il y a une forme de mise en scène. Mais à force de mettre en scène et de ne pas passer aux actes, je prends un exemple très, très concret. La Chine a conclu cette semaine un immense accord de gaz naturel liquéfié avec le Qatar sur 27 ans, l'un des plus historiques. Et ça fait des mois et des mois que l'Allemagne pense pouvoir imposer ses conditions au Qatar, non seulement en estimant qu'il faut, un contrat de long terme, mais qu'il ne soit pas long terme, à telles conditions de revente de ce GNL, etc. Sauf qu'il y a un rapport de force que la Chine sait évaluer très vite et aboutir à une solution. Tandis que l'Allemagne et donc l'Union européenne pensent qu'elle est encore en mesure d'imposer ses conditions à ses vendeurs, sans même parler, en plus de cela, des leçons de démocratie qui sont données actuellement au Qatar. Et ils prennent un malin plaisir actuellement à faire reculer l'échéance de la conclusion de ce contrat GNL.
Donc, mise en scène, agitation non productive.
Ah, bah, les faits sont là. Il n'y a pas d'avancée de ce point de vue-là énergétique auprès des fournisseurs de l'Union européenne.
Première partie passionnante. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. On va se poser la question de savoir où vont les marchés. On va avoir le top 3. On va savoir si Pierre Chang est toujours dans le top 3 et si on a des bonnes performances. On va poser la question d'argent et on va vous dire quelles actions il faut acheter ou vendre.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et je peux vous dire que le débat a continué pendant que vous n'étiez pas là entre Ben Aouda Abdennaïm, le phare de cette émission. Pascal, vous avez des notes ou pas? Vous êtes prête pour la deuxième partie de l'émission?
Suspense.
Pierre qui est venu, alors lui, il est tellement grisé par sa performance sur les derniers mois qu'il m'a dit, bon, en gros, il a dit le contraire de tout ce que je pense. Bon, il s'est dit, allez, je tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Et Valentine qui nous a un peu inquiété quand même sur l'Europe et sur la politique énergétique. On va voir si ça se reflète dans les marchés. Allez, on parle tout de suite des marchés. Bon, ça va. Ça va un peu mieux. Le CAC en baisse de 6% seulement, on a connu pire quand même. Le DAX, moins 8%. Le S&P, bon, moins 15%. Les États-Unis, moins 27%. C'est amusant quand même, parce que quand on écoute ce qu'on vient de se dire tout à l'heure sur le déséquilibre entre les États-Unis et l'Europe, quelqu'un qui ne connaît pas les marchés financiers se dirait, en écoutant les spécialistes, les États-Unis ont sûrement mieux performé que les marchés européens. Bon, il y a d'autres raisons qui expliquent que ça n'a pas été le cas, notamment le fait que les marchés américains, je révèle tout de suite la réponse, sont beaucoup plus orientés tech et valeurs de croissance que les valeurs européennes, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, on est en train de panser les plaies, quelques séances de hausse, quelques semaines d'accalmie, et finalement un CAC autour de 6700 points. Est-ce qu'on va continuer à remonter comme ça jusqu'à la fin de l'année, Pascal?
Si on parle de 2022, moi je vois quand même un rebond technique dans ce qui s'est passé.
On est dedans.
Il y a une nouvelle qui a fait basculer les marchés, qui a fait remonter les indices. Une nouvelle. Parce qu'au début, on a un peu parlé de la Chine, mais non, en fait, c'est vraiment le fait qu'on pense qu'on a atteint le pic d'inflation aux États-Unis et tout ce que ça implique derrière. Donc si on l'a atteint, les banques centrales vont
Valentine dit qu'on l'a atteint.
Bah voilà. Oui, on est d'accord. À un moment, les banques centrales vont en tout cas stabiliser leur politique. On y voit clair, on est dans un terrain plus connu qu'au début de l'année. Donc moi, je vois quand même une certaine stabilité sur le marché jusqu'à la fin de l'année. Attention quand même à certains qui attendaient cette hausse, qui ont refait de l'argent et qui pourraient consolider un petit peu quand même. Mais on a toujours des petits rallyes de fin d'année, donc on va rester sur une stabilité.
Ça existe ce truc, le rallye de fin d'année,
oui.
C'est une vision de...
Moi, ça fait 23 ans que je le vis, donc j'espère que ce sera la 23e année, en tout cas. Peut-être pas consécutive, en revanche. Faudrait que je vérifie mes dates.
Oui, c'est sûr que c'est pas 23 ans consécutifs. Alors là, par contre,
je parle que moi, du rallye de fin d'année.
Moi, sur les 75 dernières années que j'ai observées, Pierre. Vous n'allez pas être d'accord avec moi. Donc sur les marchés, qu'est-ce que vous pensez?
J'espère. Alors nous, 2023, je veux dire, on pense qu'on est dans un modèle stagflationniste. Stagflationniste, on a connu ça déjà, et ce sont des marchés qui latéralisent globalement, donc qui montent et qui descendent. Et pourquoi ils ne peuvent pas, pourquoi ils latéralisent, c'est parce que quand ils
latéralisent, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que vous avez des marchés qui évoluent en dents de scie, quoi, globalement.
En dents de scie, mais autour des mêmes cours, c'est-à-dire qui.
Voilà, ouais. Donc oui, c'est ça.
Plus ou moins 5%, plus ou moins 10%.
Voilà, dans une amplitude, on va dire de 15-20%.
Ah, de 15-20% quand même. C'est pas mal.
C'est
une grosse latéralisation.
Voilà, une large latéralisation. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand les marchés montent, parce qu'on pense qu'on a atteint le pic, sauf que ça veut dire aussi, c'est aussi synonyme de ralentissement économique, moins d'inflation. Donc il y a toujours.
Mais c'est vrai qu'on.
Quelle que soit la direction, il y aura du bon et du moins bon. Ralentissement économique signifie moins d'inflation, des banques centrales plus accommodantes, mais ralentissement économique, donc c'est pas non plus le rêve. Et inversement, quand les marchés vont baisser, c'est les banques centrales resserrent parce qu'il y a trop d'inflation, parce que l'économie est trop forte. Donc, ça empêche les marchés d'aller trop haut ou de s'effondrer complètement. Et c'est cet équilibre entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles qui font que, mais ça, on l'a connu dans les années 70, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc.
Bah, vous les avez connus.
Non, non, mais
pas,
c'est
juste.
Ça a été documenté. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il faut parvenir à faire, et c'est difficile, c'est essayer de trouver à chaque fois les bons dossiers achetés au bon moment, c'est-à-dire quand on est plutôt dans les phases de baisse.
On va en parler.
C'est pour ça l'idée.
Avant de passer la parole à Valentin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Une fois n'est pas coutume. C'est que je pense que ce n'est pas du tout équilibré. C'est-à-dire, je pense que les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, quand on dit c'est mauvais pour l'économie, ben on regarde surtout, en fait, les marchés sont drivés par la liquidité plus que par les résultats des entreprises. Et quand c'est des mauvaises nouvelles, ben finalement, les gens se disent il va y avoir de l'argent qui va couler à flot. Et c'est ce qui a fait quand même monter les cours des entreprises depuis deux ans.
Et le resserrement monétaire, c'est une mauvaise nouvelle.
Ouais. Et le resserrement monétaire, c'est une mauvaise nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de se dire d'un côté, il y a la récession, de l'autre, il y a la baisse des taux. On se dit les deux, ce sont des bonnes nouvelles. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la récession, qui devrait avoir un impact, comme vous le dites, hein, sur la vision qu'on a de la valorisation des entreprises, je trouve qu'on ne considère plus que c'est une mauvaise nouvelle.
Alors peut-être, pour compléter, deuxième point, et ça on va se rejoindre je pense, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces marchés-là, le momentum, c'est-à-dire la révision bénéficiaire du consensus, devient un élément secondaire, alors qu'il était principal par le passé. Ce qui est principal aujourd'hui, c'est la direction de l'inflation.
Et donc, des taux d'intérêt.
C'est la politique monétaire qui définit le sens. Voilà, ça c'est mon interprétation, je peux me tromper.
Valentine.
Alors là, je serai en deux actes. Acte 1, choc d'inflation, choc de taux. Je pense que là, cet acte, on est OK. On commence à avoir maintenant une vision un peu claire de jusqu'où les banques centrales vont normaliser leur politique monétaire. Donc les marchés sont rassurés. Pour moi, ça explique en partie ce rallye d'automne. Acte 2, récession, ralentissement de l'activité économique, impact des hausses de taux sur les fondamentaux des entreprises. Ça, je pense qu'on n'y est pas encore. Pour l'instant, si on regarde, je regarde sur les marchés de la dette, hein, ce qui est ma spécialité, l'impact des hausses de taux sur les fondamentaux des entreprises ont été jusqu'à présent extrêmement limités. Pour deux raisons. Les besoins de refinancement des entreprises ont été cette année très limités et les entreprises ont utilisé le cash qu'elles ont accumulé pendant la crise du Covid. On a eu un marché de la dette, marché primaire de la dette, extrêmement actif pendant la crise du Covid. Les entreprises ont bénéficié de conditions de financement incroyables à des taux historiquement bas. Et avec un appétit des investisseurs très fort, elles en ont profité.
Tant mieux.
Oui, bien sûr, tant mieux. Et elles ont refinancé une grande partie de leur dette, ce qui fait qu'en ce moment, elles n'ont été que très peu impactées par les hausses de taux qui ont été faites aux États-Unis et sur la zone euro. Mais là, on va y arriver. Et si on regarde aux États-Unis les enquêtes sur les conditions de financement d'octroi de prêts aux entreprises, on voit qu'il y a un resserrement très fort là. Et donc cet impact, on va l'avoir. Et pour l'instant, pour moi, il n'est pas encore valorisé sur les marchés. Mais c'est l'acte 2.
Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire,
sur la séquence 1.
Moi, c'est un peu ce que je disais à Pierre, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas se dire, c'est une mauvaise nouvelle, mais finalement, c'est encore une bonne nouvelle, parce que derrière, on va être obligé de réinjecter du pognon.
Oui,
et donc, c'est de la liquidité.
C'est pour ça que j'avais mis dans les signes noirs au début d'émission, ça va être important de le recul de l'inflation. Parce que si on a une inflation qui recule, ça va redonner des munitions aux banques centrales pour pouvoir dire, OK, on a une économie qui se détériore, on va pouvoir rebaisser les taux, on va pouvoir remettre la liquidité. Mais si on a une inflation qui reste élevée, la marge de manœuvre des banques centrales va être extrêmement faible et ça va être au prix de leur crédibilité, des prix sur la devise et des anticipations d'inflation.
J'avais le sentiment, mais je me trompe sûrement, que les entreprises, en tout cas les grands groupes, étaient moins sensibles aujourd'hui à l'endettement et moins endettés, avec des situations de trésorerie qui étaient quand même plus favorables.
Ça dépend. Il y a une image assez asymétrique entre aux États-Unis, il y a quand même un niveau d'endettement élevé, mais je dirais les entreprises ont des coûts de financement qui sont extrêmement bas. Ça, c'est le résultat d'une décennie de politique monétaire ultra accommodante. Et sur la zone euro, si on regarde les bilans des entreprises bien notées investment grade, les bilans sont extrêmement solides. Les entreprises ont du cash.
D'accord, donc c'est quand même pas, on n'est pas dans une situation qu'on a pu connaître dans des années où en 2008 ou 2009, on avait des dettes et des bilans qui étaient dramatiques.
Ouais. Il faut faire un distinguo entre les entreprises qui sont dans nos indices d'investissement et les entreprises en général dans l'économie.
Oui, absolument. Et donc c'est pas le cas des PME et des TPE.
C'est important de
évidemment.
Faire une distinction entre les deux. Et néanmoins, cet impact de hausse de taux qu'on a aux US ou en zone euro, pour l'instant, l'impact a été limité encore sur les fondamentaux des entreprises.
Et la question d'argent de la semaine, je me suis penché, parce que derrière le CAC, évidemment, il y a des chiffres qui sont très différents. Donc, j'ai regardé les différents secteurs du CAC. Alors, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a des secteurs, les biens de consommation, matériaux de base, pétrole, santé, services aux collectivités, services aux consommateurs, sociétés financières, technologies, télécom. Et j'ai regardé les performances de ces différents secteurs. Et bon, là, c'est le grand écart. Hein. Évidemment, pas de surprise. Hein. Le pétrole, c'est plus 30%. Donc, et de l'autre côté du spectre, la technologie, moins 24%. Aujourd'hui, dans quel secteur, Pascal Sévy, il faut investir? Est-ce que les derniers seront les premiers? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se dire maintenant, faut sortir du pétrole et du gaz et rentrer dans la technologie? Les sociétés financières aussi, moins 12%. Les biens de consommation, moins 11%. La santé, moins 14%. Est-ce que c'est là qu'il faut aller?
Faut être un petit peu plus sélectif que ça, je dirais. C'est-à-dire ne pas aller chercher tout ce qui a baissé et sortir de tout ce qui est monté. Je pense que la meilleure allocation en actions aujourd'hui, c'est d'avoir un panachage entre des cycliques qui ont quand même beaucoup souffert. Nous, ce qu'on privilégie comme secteur dans les cycliques, c'est le secteur automobile qui est quand même très en retard. Vous voyez une valeur comme Stellantis, combien de fois ça se paye les bénéfices?
Non, c'est marrant parce que Stellantis, c'est vraiment toutes les semaines. J'ai quasiment un gérant qui me parle de Stellantis et la boîte.
Il y a peut-être un truc.
Non, il y a un truc, mais le seul truc qu'il y a, c'est que ça monte pas.
Justement, il faut aller l'acheter pour que ça remonte. Mais quand vous voyez aujourd'hui le PI de la valeur, ça est quand même super attractif. On regarde aussi les semi-conducteurs, qui est un secteur qui a quand même rebondi. Il y a des valeurs qu'on aime bien comme ASML. Donc on aime bien en fait aller chercher ces valeurs cycliques. Et après, le panachage, il se fait aussi avec des valeurs défensives qui sont un peu en retard. Donc vous regardez un titre comme L'Oréal. Pour nous, c'est attractif aujourd'hui, il est quand même encore bien en retard. Et puis, des secteurs qui sont un peu moins sensibles à la récession, vous en avez cité quelques-uns, la consommation de base, donc tout ce qui est alimentation et tout ce qui est pharma, ça nous intéresse aussi. Et on pense que ce panachage permet à la fois d'être opportuniste, en fait, sur des titres qui ont bien baissé et de protéger un peu son portefeuille avec des défensifs, mais bien choisis. On préfère aller chercher un L'Oréal qu'un LVMH ou un Hermès qui se sont quand même très bien tenus finalement en 2022.
Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, contrairement à ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas privilégier forcément un secteur, mais il faut panacher plusieurs secteurs, et même dans les secteurs, il faut faire des arbitrages.
Dans tous les cas, en matière de... Quand on est en période de récession ou pas loin, il y a une très forte discrimination sur les entreprises et les résultats. C'est très sanctionné quand il y a des mauvaises nouvelles. Donc pour nous, le stock picking, il est clé pour construire un portefeuille aujourd'hui.
C'est pas
plus que jamais.
Tu veux dire le contraire, là? Alors, quel secteur il faut privilégier?
Ouais, donc dans la logique dont je vous parlais, c'est-à-dire des marchés en dents de scie, il faut essayer d'acheter des valeurs du coup
latéralisées
qui ont il faut essayer d'acheter des valeurs dans ces marchés-là, des valeurs qui sont tombées très bas. Voilà, et donc c'est vrai que si nous l'un de nos scénarios, c'est de dire quand finalement la récession que tout le monde attend en 2023 sera peut-être beaucoup plus light que ce que certains pensent, donc ça pourrait surprendre positivement. Et donc dans ces secteurs qui sont effondrés littéralement, et notamment tout ce qui est consommation discrétionnaire, c'est-à-dire les achats que les gens peuvent éviter quand ça va mal, paradoxalement, vous voyez. Donc là, par exemple, il y a des valeurs comme Seb, par exemple, qui s'est fait littéralement massacrer, à juste titre. Mais en fait, comme beaucoup de dossiers cycliques, le discours de récession et le discours de crainte sur 2023 fait qu'il y a des dossiers où on a déjà intégré dans le cours de bourse un scénario noir pour 2023. Comme nous, on pense que le scénario 2023 finalement va mieux se passer que ce que certains pensent. On pense qu'il y a beaucoup.
Quand vous dites certains, vous pensez à Valentine?
Certains, non.
Il regarde, il se tourne vers Valentine.
Je dirais le consensus globalement. Voilà. Donc, pardon. Et juste pour finir, consommation discrétionnaire et bien sûr énergie. Énergie, c'est le secteur à détenir. Dans un environnement.
Il a fait plus 30% cette année.
Mais il y a encore plein de choses. En fait,
moi, je suis basique, comme a dit Pascal. Moi, je suis basique. Moi, j'achète ce qui a beaucoup baissé et je laisse ce qui a beaucoup monté. Donc j'aurais tendance à ne pas toucher au pétrole et à acheter la tech. Mais non, c'est pas...
Dans un environnement inflationniste, l'énergie est incontournable et devient un secteur défensif. Et oui, c'est très intéressant. Je termine là-dessus. Très intéressant de voir que dans le nouveau régime de marché qu'on voit aujourd'hui, on a un secteur, par exemple, d'immobilier qui était perçu comme défensif historiquement et qui aujourd'hui devient un secteur très risqué, voire spéculatif. Et vous avez des variations dans le secteur de l'immobilier boursier qu'on n'a jamais vu depuis très longtemps. Et alors que l'énergie, c'est l'inverse en fait. Et l'énergie, de plus en plus, se comporte comme un secteur défensif. Et à chaque fois, quand on voit les classements sectoriels, on voit que toujours l'énergie se met à côté des telcos, de la santé. Souvent, quand ça performe, l'énergie fonctionne comme un secteur défensif. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne... Vous vous protégez contre l'inflation et en plus, il y a une relative défense dans ce secteur. Et ça, je trouve ça assez intéressant.
Alors, premier scoop de l'émission, Ben Aouda, un truc à dire sur les marchés.
C'est un scoop, effectivement. Non, c'est pas un scoop. Pascal Séville a évoqué le caractère tout à fait fondamental dans l'épreuve de force internationale de ASML actuellement entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. ASML qui est une pépite technologique tout à fait extraordinaire néerlandaise. Les États-Unis veulent contraindre ASML, les Néerlandais, à ne plus vendre aux Chinois. Les Néerlandais qui ne sont pas coutumiers du fait se sont rebellés. Il y a le numéro 2 du secrétariat au commerce américain qui va aller aux Pays-Bas pour plaider son dossier. Et les Néerlandais qui disent qu'ils ne céderont pas à ce diktat. Les Chinois qui estiment que là, on a la meilleure illustration de la capacité de l'Union européenne à résister aux États-Unis. Donc, ce dossier ASML est tout à fait fondamental dans l'épreuve de force internationale.
Waouh, Pascal, là, c'est la consécration. Ah ouais. C'est la première fois depuis que l'émission existe que Ben Aouda réagit à une partie sur les actions qui demandent à parler. Je pensais qu'il...
Non, c'est vraiment... Je suis frappé que
bravo,
ce
Pascal.
Dossier ne soit pas davantage...
Et le titre a pris quasiment 50%, 40-50% sur les dernières semaines, ce qui doit être aussi un peu lié à tout ça.
Valentine, le mot de la semaine pour vous.
Compétitivité. Je pense que l'évolution du prix de l'énergie en Europe est clé. On doit investir aujourd'hui pour financer la transition vers une économie plus verte. Tous les investissements que l'on va faire dans les infrastructures énergie en Europe sont extrêmement importantes. Le risque aujourd'hui, c'est que dans les industries qui sont grandes consommatrices en énergie, on voit les entreprises déplacer leur activité vers des zones où l'économie est moins chère.
J'ai juste une question purement technique, je ne sais pas si on peut répondre très vite, mais si l'Europe décidait, ce que disait Pierre, ce que vous êtes en train de dire, de devenir indépendant, rêvons, avec des énergies renouvelables et d'investir vraiment massivement avec du déficit, avec de la dette, est-ce que ça plomberait l'attractivité pendant quelques années de l'Europe et notamment l'euro ?
Non, mais il y a déjà beaucoup de contraintes techniques pour arriver à être indépendant d'un point de vue. Rien que le cuivre ou...
D'accord, mais il y a des décisions à prendre. Ce que je veux dire, c'est que si on se mettait à investir massivement, on explose les déficits, on explose la dette et on dit on y va.
Bah déjà, faudrait, pour investir massivement sur les investissements, il faudrait déjà être beaucoup plus rigoureux dans notre management de la dette sur les autres postes de dépenses, notamment pour le soutien de la demande. Donc c'est une allocation, ce n'est pas du tout évident.
Pierre, le privé peut investir aussi. Hein.
Et le privé peut investir, oui.
Pierre, le mot de la semaine.
Le mot de la semaine, c'est la COP15 qui aura lieu du 7 au 19 décembre à Montréal sur la biodiversité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé environnement-climat ces dernières années, mais là, la biodiversité, il y a un rapport de WWF qui explique qu'il y a 70% des populations d'animaux sauvages qui a disparu entre 1970 et 2020. Donc on est dans l'urgence quand même, mais l'espoir est possible. Et donc nous, c'est un sujet qu'on a vraiment à cœur.
Vous êtes porteur d'espoir en ce moment.
Tout à fait, je suis optimiste. Et donc on a lancé le 15 novembre un fonds Tocqueville Biodiversity SR qui est géré par Alvaro Navarras et Mehdi Chaïti, qui sont des bons gérants sur cette thématique. Et voilà, on est très maintenant, on s'engage de plus en plus sur ce sujet.
Vous avez fait votre quart d'heure de pub, quoi.
C'est le mot de la semaine. Voilà.
Le mot de la semaine pour vous, Pascal.
Moi, c'est Nasdaq européen.
Allez-y.
Ça existe.
Ouais.
Enfin, on l'appelle parfois Nasdaq européen. En fait, c'est un indice qui s'appelle Euronext Tech Leaders, qui a pour vocation donc de faire concurrence au Nasdaq. En fait, l'idée, et que je trouve vraiment intéressante, c'est des annonces qui ont été faites cette semaine par Jean-Noël Barrot sur la volonté de coter des licornes françaises en bourse, notamment sur cet indice. Donc, je crois qu'il vise 10 licornes d'ici 2025. On a parlé un peu de la dette et de la difficulté qu'ont certaines petites entreprises pour trouver de la dette. Il y a beaucoup de difficultés aussi quand les valos sont élevés avec les fonds non cotés. Et je trouve que le marché coté pourrait prendre le relais et permettre à nos entreprises, nos belles licornes, de rester en France et de ne pas toujours s'expatrier aux États-Unis.
Et surtout qu'il y a des très belles licornes cotées qu'on n'appelle pas licornes et c'est anormal. Ben Aouda.
Jeux vidéo. Vous avez peut-être vu que le régulateur chinois de l'industrie du jeu vidéo a décrété que le problème de l'addiction de la jeunesse chinoise aux jeux vidéo est résolu, puisque 70% des mineurs à travers le pays jouent à présent moins de 3 heures par semaine.
C'est énorme.
Il faut se souvenir qu'à l'été 2021,
c'est énorme.
Il y a eu des mesures extrêmement restrictives pour que vous...
Donc ça a marché.
Ça a fonctionné. Et pourquoi ça a fonctionné et qu'on a décidé que ça allait fonctionner, c'est que on l'a vu dans le quotidien du peuple, l'organe central de presse du parti, la semaine dernière, Parti communiste, pardon, dire que c'est un instrument de l'influence chinoise dans les relations internationales qu'il ne faut pas négliger. Donc, on a décidé de redonner des licences de jeux à Tencent, NetEase, les grands acteurs du domaine. Donc, on va revoir une arrivée massive du jeu vidéo chinois.
Mais à l'étranger.
Mais à l'étranger, sachant que, par contraste, un analyste de Shanghai nous disait que, par contraste, les jeux vidéo de l'étranger auront beaucoup plus de difficultés à obtenir des licences sur le territoire chinois.
Vive la réciprocité avec la Chine. Allez, j'ai un événement là. Musique, mettez-moi une musique forte là, je veux entendre quelque chose là. Bah oui, on va remettre un peu nos Oscars. Bah, il se fait passer un truc incroyable. J'ai une performance positive. Oui, ça fait des mois que c'était pas arrivé. Pierre Chang, 1% de hausse. Mais 1%, c'est un miracle.
Pas très élevé, mais...
On a mis une musique spéciale. Romain Burnand est à moins 2,7. Notre ami Romain, Alain Pitou, notre ami Alain, est à moins 3,1. Bravo!
Merci beaucoup.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous avez fait de beau? Alors, je vous donne votre portefeuille, vous allez me dire. Bon, en tout cas, on a mis la musique parce que ça fait tellement plaisir. J'en ai tellement marre de faire le top 3 en me disant est-ce que c'est un top 3, un flop 3 avec des performances qui sont toujours négatives, que ça me faisait plaisir. Donc, Pierre, vous avez une boîte qui a cartonné qui s'appelle SES Imagotag. Vous pouvez nous dire très rapidement ce qu'elle fait?
Oui, ils font des étiquettes d'affichage des prix dans les magasins. Et donc, voilà, c'est une étiquette sur deux dans le monde et vendue par SES Imagotag. Et c'est vrai que pendant des années, en fait, ils visaient le marché américain. Et début 2022, ils ont enfin renforcé leur relation avec Walmart. Et c'est historique à l'échelle du groupe.
Alors, vous avez du Stellantis, hein, Pascal, ça vous fait plaisir. Vous avez du Rothschild et compagnie, vous avez du M6, vous avez du Guerbet et vous avez du GTT qui a aussi bien performé cette année, qui a pris 42%. Qu'est-ce qu'on achète cette semaine?
On peut en enlever des valeurs.
Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes chez vous.
Oh, voilà, bon alors déjà, on enlève.
Bah, déjà, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec moi, maintenant vous pouvez tout faire.
On va enlever SES Imagotag.
Vous savez, vous prenez votre profit, il n'y a plus de potentiel, si.
Non, mais bon, il y a deux choses plus intéressantes, je trouve, en ce moment, même si ça reste un dossier exceptionnel, hein, mais on va attendre. On va
donc Stellantis, vous gardez, Rothschild, vous gardez, M6,
Rothschild,
vous gardez.
Rothschild, on
enlève.
Rothschild, on vend. GTT aussi. Voilà, donc
grand nettoyage de la fin d'année.
C'est le nettoyage de l'hiver, de l'automne, et je garde Stellantis et Guerbet.
Ok, et qu'est-ce que vous achetez?
Je vais en rajouter deux, si c'est possible, étant donné que.
Si vous êtes rapide, c'est possible.
Ok, alors je vais faire Seb. Donc Seb, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, le titre s'est fait malmener. De manière exagérée, même si 2022 en fait c'est l'année de tous les problèmes pour eux. Voilà, si en cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on pense que l'essentiel est déjà intégré, même s'il peut encore avoir un peu de révision baissière du consensus sur la valeur. L'essentiel est intégré dorénavant et le titre devrait.
Allez, c'est bon, c'est bon. Quoi d'autre?
Et ensuite, je voudrais rajouter Quadient, voilà, qui est l'ex Neopost en fait, qui est aussi une valeur un peu mal aimée de la côte, mais qui se traite aussi sur des multiples totalement déprimé, qui a quand même 70% des courants dans son chiffre d'affaires, donc c'est quand même quelque chose d'assez solide et qui est investi dans des activités d'avenir. Voilà, et c'est un dossier qui est très mal valorisé par la bourse selon nous.
Pascal, vous avez du Visa, vous avez aussi du GTT qui a fait 42% de hausse, bravo, depuis le début de l'année. Vous avez du, vous me dites si je vends quelque chose, hein. Vous avez
non,
du
rien.
D'accord, mais je dis quand même. D'accord. Vous avez du Salesforce, ASML, Benahouda. SML. Oui. Du Texas Instruments, du Stellantis, vous avez du Adyen, du Sika, du Straumann, du Fortinet, du Thermo Fisher Scientifique et du Nexans. C'était la dernière valeur que vous nous avez recommandée. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui, Pascal?
Je précise juste que je ne vends rien parce qu'on avait bien vendu déjà la dernière fois. Oui. J'avais un peu liquidé.
Non, mais faites comme vous voulez.
Enfin, liquider quelques valeurs.
Vous n'avez pas à vous excuser, hein, vous êtes chez vous.
Aussi. Merci. Aujourd'hui, on achète Veolia. Donc, Veolia, tout le monde connaît. Hein, c'est l'un des fleurons de l'industrie française. C'est le numéro un mondial des prestations de services à l'environnement. Donc, c'est gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de l'énergie. Ses principaux clients, entreprises et municipalités. Comme il y a aussi une indexation des prix, ça permet de ne pas souffrir tellement des prix de l'inflation. Ils ont bien digéré l'acquisition de Suez. Donc, on n'est plus aujourd'hui dans des problèmes d'endettement. Et ils sont évidemment dans les grandes tendances qu'on aime bien. Donc, la transition énergétique, très bien positionnée. C'est une valeur qui souffre encore aujourd'hui parce que si on price une forte récession, bah c'est une valeur en fait qui souffre à cause de ça. Et comme ce n'est pas notre scénario et que la boîte a de très bons fondamentaux, nous on pense qu'il y a un point d'entrée qui est extrêmement intéressant, même si elle a un petit peu rebondi.
Pierre?
Sur Veolia?
Ouais.
Ah, c'est
tout. Vous en avez ou pas?
Oui, bien sûr qu'on en a. Bien sûr, bien sûr. En plus, c'est vraiment un acteur de la
transition énergétique.
De la transition. Mmh. Et en plus, maintenant, c'est vrai que pendant deux ans, on a parlé du deal Suez. Maintenant que c'est réglé, enfin, on souffle et on peut passer à un autre sujet. Donc,
et
là,
on commence à voir justement les synergies qui sont liées à Suez. Et comme il n'y a plus de problèmes d'endettement par rapport à ça, aujourd'hui, c'est en fait que des bonnes nouvelles pour eux.
Donc le premier scoop, c'est Benahouda qui a intervenu sur les valeurs. Le deuxième scoop, c'est donc une performance positive. Et le troisième scoop, c'est qu'on a une recommandation de valeur, non?
Non, cette fois-ci,
vous avez bien réfléchi. Vous n'avez rien à nous recommander.
Non. Lorsque ça a trait à relations internationales, je m'aventure.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle va être exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous voir, ou revoir en replay, en podcast sur la plateforme BFM Business et surtout sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.